Samedi 28 février prochain aura lieu au Poulailler à Saint-Just-de-Clé une journée baptisée Les Saisons Décoloniales, la deuxième édition, autour de la santé mentale et du racisme. Pour en parler, je reçois ce matin JJ.
Salut Céline.
Salut JJ. T'es membre du collectif qui organise ces Saisons Décoloniales, tout comme moi d'ailleurs. Donc du coup, c'est une fois n'est pas coutume, mais je vais dire on parce que je fais partie de l'organisation moi-même. On va faire un tour de qu'est-ce que c'est que ces Saisons Décoloniales, qu'est-ce que c'est le programme de cette journée, quelle est l'intention aussi de notre collectif. Est-ce que peut-être tu peux déjà, dans un chapeau un peu introductif, nous dire c'est quoi ces Saisons Décoloniales et d'où ça vient?
Alors ces Saisons Décoloniales sont nées suite aux rencontres décoloniales à Oust en mai dernier.
En mai 2025. Dans la vallée de la Drôme.
Dans la vallée de la Drôme, qui ont lieu sur 2 jours. Donc moi j'ai participé au samedi, le vendredi je ne pouvais pas être là. Et de cet événement est née un peu cette envie de recréer, enfin on s'est un peu emparé, on va dire, de l'idée des potes de la Drôme pour visibiliser en fait et pour pouvoir parler aussi des problématiques racistes et systémiques qu'il y a dans un peu partout et dans la vallée du Royan où nous habitons. On s'est rendu compte quand même qu'on est plusieurs personnes à être concernées de près ou de loin et on s'est dit mais en fait pourquoi pas nous, en fait? Sauf que la différence, c'est que les potes dans la Drôme, en Drôme, pardon, je crois qu'on dit en Drôme ici, se sont rendus compte avec le recul que c'était super lourd de porter un événement juste sur 2 jours. Du coup, on s'est dit, nous, pourquoi pas mettre ça en place plutôt sur le principe des 4 saisons. Comme ça, ça fait des plus petits événements à gérer, et du coup, ça nous permet de nous retrouver plusieurs fois dans l'année. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née cette dynamique. Donc on est même un bon collectif maintenant parce qu'il y a de plus en plus de monde qui nous rejoignent. Autant des personnes racisées et de personnes blanches. On reviendra sur la définition de racisée après, je pense, Céline. Voilà, du coup, écoutez, moi j'ai envie un peu de, pas forcément de citer le texte de présentation, mais en gros un peu de ce qui en découle. Donc en gros, comme je disais, l'événement a vu le jour suite aux rencontres décoloniales à Oust en Drôme en mai dernier. Nous, l'idée, c'est quoi? C'est de donner la parole et de visibiliser les personnes concernées aux problématiques racistes, systémiques, et notamment issues du milieu rural. En fait, tout ce qui se passe dans le milieu rural, un peu à la campagne, partout en France. On parle souvent, on fait des problématiques racistes qu'il y a en ville, mais ça se passe partout. Et la problématique, c'est que... Enfin, la problématique... La différence avec la ville, c'est qu'on est plus visible en milieu rural parce qu'on est moins, on se fond moins dans la masse, si je peux me permettre l'expression. Et c'est pour ça qu'il nous était important, nous, en tout cas, de mettre ce projet en place. Et voilà.
D'ailleurs, la visibilité et l'invisibilité, c'était le thème de notre première journée qui a eu lieu...
Le 15 novembre.
Le 15 novembre, je cherchais la date. C'était notre lancement. On se disait, on ouvre ces saisons. Il y en aura donc, il y en a eu une à l'automne. Là, le 28 février, c'est l'hiver. Et puis après, il y en aura une au mois de mai pour le printemps et une plus tard pour l'été. Avec à chaque fois des thématiques, des focus différents. Puisque dans ces journées, il y a des tables rondes, des conférences, du spectacle. On avait envie qu'il y ait du spectacle vivant aussi.
Ouais.
Et la question de la visibilité était effectivement au cœur de cette première journée. Quel bilan on en a tiré, toi, selon toi, de cette première journée qui a eu lieu en novembre?
Qu'est-ce qu'on en a tiré? Qu'en fait, ça parlait quand même à beaucoup de monde. Moi, j'étais agréablement surpris de la réussite de cette première édition. Qu'en fait, il est important d'en parler. Il est important de se retrouver pour en discuter sous toute forme. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a donné raison de faire cet événement. C'était lourd à organiser, mais dans le bon sens du terme. C'était intense émotionnellement. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'il fallait qu'on le fasse.
Il y a eu des rencontres aussi. Il y a des gens qui sont venus de loin. Il me semble qu'il y avait des gens du pourtour de Valence, de Romans.
Oui.
Des gens qui cherchent d'autres personnes racisées qui vivent en milieu rural pour... se solidariser, faire communauté.
C'est ça. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes concernées qui habitaient proche de chez nous et qu'on ne connaissait pas. Sans parler de devoir connaître toutes les personnes racisées ou concernées par des problématiques systémiques ou racistes à côté de chez nous. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que ces événements-là permettaient aux personnes concernées de venir peut-être plus librement, d'en parler. Moi, je pense, enfin, j'espère... que ces événements vont pouvoir permettre à ces personnes-là de venir plus librement, écouter, échanger. C'est pas toujours évident. Je peux malheureusement témoigner de ce qui m'est arrivé aussi. Enfin, en tout cas, je veux dire, par rapport à moi, ce qui m'est arrivé, je sais que c'est pas toujours simple d'aller en parler. La parole n'est pas toujours comprise. On prend pas toujours le temps aussi d'écouter ou de raconter ce qui peut se passer dans ces milieux ruraux. En tout cas, c'est un fait. Il y a des problématiques. Enfin, pardon. C'est un fait. Le racisme est partout et dans tous les camps. Et que de le garder pour nous, c'est comme tout, c'est pas bon. Donc, on est ensemble et faut continuer comme ça, quoi.
Et toi, tu disais, donc on a dit qu'on allait peut-être revenir sur ce terme personne racisée. Tu te définis comme une personne racisée. Est-ce que peut-être tu peux préciser pour les auditeurs auditrices qu'est-ce qu'on entend par là ? Parce que quand on dit concerné, j'ai l'impression qu'on est tous et toutes concernés par le racisme, comme on est tous et toutes concernés par les discriminations en général, le sexisme, d'autres formes de discrimination, parce que ça concerne les faits de société. Sauf qu'on n'a pas les mêmes places dans ces dynamiques-là. Et quand on est une personne visiblement racisé, voilà, on est plus cible de racisme, quoi.
Il me semble que la définition du mot racisé, enfin, pour moi, elle est pas claire. Enfin, en tout cas, moi, ma définition du mot racisé, c'est une personne qui est victime de racisme, de discrimination par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle a été assignée à la naissance, en tout cas. Enfin, je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. Aujourd'hui, il y a des personnes non blanches, je prends par exemple, qui ne se sentent pas victimes. Il y en a très peu, hein, mais moi j'en connais quelques-unes, qui n'ont jamais, ou en tout cas qui ne se sentent pas victimes forcément de racisme, de discrimination. Je ne sais pas si pour autant je les catégoriserais dans la partie des personnes racisées. Des personnes de couleur qui ne se considèrent pas comme personnes racisées. Ça peut être un très très long débat. Pour moi, une personne racisée, c'est une personne qui est victime de racisme et de discrimination par rapport à ce qu'elle est ou ce qu'il ou elle est.
Puis il y a aussi des personnes qui ont ce qu'on appelle un passing blanc, c'est-à-dire qui passent dans notre société comme personnes blanches et qui pourtant ont dans leur histoire culturelle ou identitaire des processus de racialisation, c'est-à-dire qui ont vécu aussi la question d'être une minorité dans cette majorité blanche.
Tout à fait. On a tendance à oublier un peu ces personnes-là. Parce que oui, en effet, dans la rue, c'est pas forcément ces personnes-là au début qui vont être victimes, que ce soit de propos ou d'actes physiques racistes ou discriminants, mais elles en font partie aussi. Donc je pense qu'il serait intéressant de faire un débat, en tout cas de rediscuter sans vouloir remettre en question la définition du mot racisé. Mais moi, je sais que j'ai entendu différentes définitions du mot racisé, de par qui elles étaient définies, justement. Mmh. Et je me rends compte qu'on n'a pas toutes et tous la même définition de ce mot, quand bien même, dans le fond, on parle de la même chose, mais on ne se retrouve pas toutes et tous toujours derrière ce mot-là, racisé.
Oui, c'est intéressant parce que donc là, on est un jeune collectif, on a lancé cette première journée, là, il y a la deuxième qui arrive, on ne se connaît pas forcément tous et toutes bien, et on voit bien que dans les échanges qu'on a, de manière informelle ou dans les réunions qu'on fait ensemble, cette question-là d'être racisé prend des couleurs différentes, c'est le cas de le dire.
Oui.
Et du coup, on peut, par exemple, être assez loin de la culture d'origine de ses parents, mais pourtant, c'est visible sur soi. Et à l'inverse, porter très fort quelque chose d'assez identitaire ou culturel à l'intérieur de soi et que ce soit pas très visible. Enfin voilà, c'est beaucoup plus complexe et il n'y a pas des personnes blanches et des personnes racisées. Il y a tout un.
C'est pas binaire, c'est pas si simple que ça. Et malheureusement, en tout cas, moi, pour avoir connu ou évolué dans des milieux un peu militants, plutôt à majorité de personnes blanches, justement, la définition n'est pas toujours la même et on aurait des fois tendance à croire en lisant certaines définitions proposées dans des brochures, on va dire un peu militantes, de personnes blanches, enfin en tout cas rédigées par des personnes blanches, qu'une personne racisée est ni plus ni moins qu'une personne de couleur, enfin ni plus ni moins qu'une personne qui est visible physiquement non blanche. Mais c'est pas si simple que ça, et du coup c'est pour ça que c'est très très intéressant de remettre la définition de ce mot au centre.
Oui, et c'est pour ça qu'on crée ces événements, qu'on échange. Donc tu disais, oui, à Oust, c'était deux journées. Ça a été assez lourd pour les personnes qui ont organisé.
Oui, même pour le public. Hein.
Ouais,
moi, c'est vrai que c'était dense. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand même, fallait digérer tout ça. Et, alors, moi, je remercie encore les potes. Hein, et un grand bonjour, mais c'était lourd. Moi, il m'a fallu du temps pour digérer après derrière. Et je me dis que déjà... Déjà, au vu de la première journée, je sais pas toi Céline, mais émotionnellement c'était fort. C'est pour ça que c'est bien d'échelonner et du coup sur toute l'année. Et en plus, ça permet de nous voir 4 fois dans l'année. C'est quand même bien, non?
Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et puis ça permet aussi de faire des formats effectivement un peu plus digestes et pour nous l'orga et pour le public.
Oui.
Avec l'envie qui est par exemple toujours une forme artistique.
Oui.
Ce qui a eu assez peu à Oust, une soirée le dimanche soir. Mais là, on a proposé en novembre un spectacle d'une des camarades de l'orga qui habite à Pont-en-Royans. On essaye aussi que ce soit très local et de saison, comme
oui,
on dit.
C'est ça.
Yambalou Arnaud qui a fait donc son spectacle autour de ces questions-là, d'identité, d'héritage familial. Et on va rentrer tranquillement dans le programme de ce 28 février. Pour cette journée, on attaque le matin. Alors, la dernière fois, il y avait eu un atelier d'écriture. Là, on va être plutôt sur quelque chose de créatif. C'est deux membres de notre équipe qui ont eu envie de proposer ça.
Oui.
C'est un atelier donc fanzine et créatif. On s'est dit que c'était l'occasion de, si on avait envie, soit de faire des banderoles, soit de faire des pancartes, soit de faire un petit fanzine, soit d'écrire des textes, soit de faire du collage. En tout cas, il va y avoir à disposition pour le public et pour nous du matériel créatif pendant 2 heures, de 10h à midi, pour bricoler ensemble. On s'est dit, on a parlé aussi de la question des ancêtres pendant qu'on préparait tout ça, et on se disait peut-être ça peut être aussi l'occasion de faire un hôtel à nos ancêtres. Je sais pas si tu te rappelles, mais on a évoqué ça en disant il y a des gens qui font ça, est-ce qu'on pourrait selon nos cultures aussi avoir envie de créer des choses autour de ça. En tout cas voilà, c'est un espace libre.
Tout à fait.
Il y aura des tables, il y aura la possibilité d'être en mixité choisie, donc ça c'est aussi un terme qui est pas mal utilisé, en disant on sera entre personnes racisées qui subissent du racisme, donc à certaines tables, mais c'est aussi ouvert aux personnes blanches. Oui, ça c'est quelque chose qui est important, c'est qu'on avait envie que ce soit ouvert à tout le monde, ces journées-là.
Que ça soit ouvert à tout le monde, que ça soit pour le public et aussi sur, on va dire, dans l'orga, dans l'instant T. Ça veut dire que même, enfin, je pense qu'on peut aussi le dire, on recherche toujours des coups de main en amont, pendant et après l'événement. Cet événement n'est pas du tout fermé. Il est pour nous important de se retrouver entre personnes concernées pour en discuter, pour s'organiser en amont, et quand bien même on a des personnes blanches aussi
dans
l'orga, quoi. C'est pas pour autant que cet événement après se veut
fermé
ou même pour employer des grands mots, communautaire, quoi.
Non.
Parce que justement, et ça serait à mon sens un peu se tirer une balle dans le pied d'agir comme ça, et ça serait du grain à moudre pour tous les gens en face qui se diraient regardez, voilà, saison des coloniales,
ils se retrouvent entre
eux. Juste pour se victimiser, parce que c'est comme ça qu'on est présenté la part des personnes de droite et encore plus de droite, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, c'est vrai qu'il s'agit pour nous d'être aussi assez pédagogue autour de ces questions, de dire ça nous concerne tous et toutes. On a une réalité, on vit une réalité ici dans le Royan et dans le pourtour autour du Royan. Concernant ces questions de racisme, venez, on en discute. C'est assez ouvert.
Oui. Et je me permets d'ajouter une chose, de se retrouver, d'en discuter, d'échanger, c'est pas forcément dans le but de trouver directement des solutions. Et ça, enfin moi, je mets vraiment l'accent là-dessus, parce que de mon passif, j'ai évolué dans des réseaux où on cherche toujours à obtenir des résultats. En fait, avant d'obtenir des résultats, il faut prendre le temps. Et du coup, ça passe par des échanges, passe par de la déconstruction pour des personnes qui ne sont pas concernées, voilà, hein, comme dans toute lutte concernant les minorités visibles et invisibles. Donc, voilà.
Oui, c'est sûr que c'est des processus qui sont longs, et nous, on met notre pierre à l'édifice, on ne prétend pas effectivement apporter des solutions, on n'est pas dans quelque chose de vindicatif, mais plutôt de doux, j'ai l'impression, par rapport à peut-être à d'autres événements.
On essaye en tout cas.
On essaye. Du coup, en douceur, on va faire de la créativité ce samedi 28 matin de 10h à midi. À midi, il y a une cantine autour d'un couscous. C'est des amis, camarades du Trièves qui viennent nous faire la cantine.
Tout à fait.
Donc couscous parti.
Un couscous, tous pour un.
Voilà.
Comme disait je ne sais plus qui.
Les chevaliers. Couscous le midi, venez. Si vous n'êtes pas venu à l'atelier du matin, venez quand même déjeuner avec nous, ce sera avec plaisir. L'après-midi à 14h, c'est le moment artistique ou en tout cas spectaculaire. Ce sera une lecture théâtralisée de « Mon père était dans sa cuisine » de Anuradha Rugunundan, que j'ai eu l'occasion d'interviewer à ce même micro. Tu peux en dire deux mots de cette performance ? Ou tu veux que je le fasse ?
Je préfère, je le maîtrise beaucoup moins.
Alors Anuradha, elle revient aussi sur son expérience de personne métisse, elle se définit comme ça, notamment avec son père qui vient de l'île Maurice. Et donc elle parle de ses souvenirs, de son lien avec son père, et aussi de qu'est-ce que lui a vécu dans son exil en venant, je ne vais pas trop spoiler, mais voilà, en venant en France métropolitaine, qu'est-ce que ça a créé pour lui d'être une personne racisée en France. Et c'est une lecture théâtralisée, donc c'est assez light en termes de format, qui va durer à peu près trois quarts d'heure, qui va introduire aussi cette thématique, puisque pour ce 28 février, on va parler de santé mentale. Ça nous semblait important parce que les questions de racisme, c'est des questions qui sont politiques, mais qu'on vit dans nos intimités, et effectivement qui affectent nos santé mentale.
Oui.
Parce que quand on est victime de discrimination, quand on peut vivre de la violence, ça nous construit voilà, dans un certain rapport au monde. Et donc cette lecture théâtralisée va s'enchaîner à 15h par un plateau radio que j'animerai avec une des camarades du collectif, qu'on a intitulé « Ce que le racisme fait à nos santé mentale », justement, avec donc Anuradha qui viendra de faire sa performance. Ça sera comme une prolongation de cette performance. Et Sophie Ndiaye, qu'on a pu découvrir justement aux rencontres à Oust. Sophie, qui est une psychologue qui travaille notamment sur le psychotrauma, qui apportera à la fois un éclairage sur comment le racisme peut créer des traumas pour les personnes subissant ce racisme au niveau psychique, et quelles solutions elle a, comment elle travaille pour déloger ces psychotraumas. Voilà, elle vient de Cray, elle travaille pas mal sur ces questions, donc ça va être une table ronde assez intéressante. On va sortir notre studio mobile de Radio Royan, on va capter aussi, donc ce sera enregistré, donc possible de le retrouver après sur le site de Radio Royan si vous ne pouvez pas être là le 28 février. Et après, il y aura donc un goûter, parce qu'il faudra digérer tout ça. Et après, une projection de film, ça peut-être tu peux plus nous en parler, JJ.
Oui, du coup, pour cette deuxième édition, nous projetons, alors désolé pour mon accent auparavant, le film « Dope is Death » de Mia Donovan, qui a été fait en 2020, me semble-t-il. Ce film revient sur le premier programme de désintoxication par acupuncture aux États-Unis, qui a été mené par les Black Panthers et les Young Lords. Ces deux collectifs se sont réappropriés à l'époque l'hôpital Lincoln dans le Bronx, si je ne m'abuse. Et du coup, cette opération, en tout cas, a été menée par le docteur Moulatou Chakour. Je pense que ce nom vous dit quelque chose, parce que c'est ni plus ni moins. Alors j'ai un doute, je ne sais plus si c'est le beau-père ou le grand-père maternel de Tupac Shakur. En tout cas, voilà. Du coup, les Black Panthers qu'on ne présente plus, et les Young Lords. Alors pareil, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est une organisation plutôt portoricaine, me semble-t-il. Voilà, donc du coup, c'est en 73. Voilà, l'idée, c'était aussi de s'émanciper autour du soin. Et du coup, ils ont créé ce premier programme qu'on appelle aujourd'hui le protocole NADA. Voilà, donc du coup, ça nous faisait sens de projeter ça, parce que du coup, santé mentale,
soins,
personnes racisées, victimes de racisme, émancipation, tous ces mots-clés qui collaient avec la thématique de notre deuxième édition se retrouvaient dans ce documentaire.
Donc c'est un documentaire, hein, c'est pas un film de fiction.
Pardon, c'est un documentaire, oui.
C'est un documentaire, il dure 1h30.
Ouais, 1h20.
1h20, exactement. Et c'est l'occasion effectivement de découvrir quelque chose, ça nous amène un peu plus loin que dans notre ruralité ici dans le Royan, mais on peut faire des ponts, on peut faire des parallèles. Voilà, donc pour le programme, et ça se terminera tranquillement, donc vu que la projection est à 17h, on va dire que vers 19h, c'est fini.
19h, c'est la fin de, ça sera la fin de notre deuxième édition.
Et ça tombe bien, puisqu'à 20h, toujours à Saint-Just-de-Clé, il y a le super groupe La Mossa qui fait son concert, organisé par nos collègues de la 5e saison de la CCR. Donc ça permet d'enchaîner toute cette journée, cette soirée, de manière festive aussi. Voilà. Et donc, peut-être on peut dire deux mots sur pourquoi est-ce qu'on est au poulailler. Et c'est quelque chose qui a été... en questionnement parce que peut-être pour la prochaine édition, l'édition du printemps, on a envie de changer de lieu et d'aller plutôt dans une salle des fêtes.
Qui aura lieu
autour du 16 mai.
Le 16 ou 17 mai. Bon, en tout cas, c'est pas très compliqué. Ça sera quasiment un an, jour pour jour, après les premières rencontres décoloniales qui ont lieu à Oust, en Drôme. Je crois que c'est le 16 ou 17 mai. C'est le week-end de l'Ascension. Donc
voilà.
Pour les personnes qui n'ont pas décidé de partir.
Venez.
Ouais, c'est ça, venez. On vous communiquera le lieu bientôt.
Oui, donc le poulailler, c'est quand même une salle, c'est un espace qui est souvent mis à disposition, qui est facile d'utilisation pour les collectifs, qui est donc à Saint-Just-Clé. C'est aussi qu'on a envie de changer parce que peut-être on a envie qu'il y ait peut-être des nouvelles personnes, d'ouvrir. Enfin, ces questions-là sont régulièrement dans nos discussions au sein de l'organisation.
Ben ouais, il y avait plusieurs questions qui reviennent à chaque fois. C'est pourquoi on le fait, ça on le sait. Pour qui on le fait, ça on commence à le savoir. Mais qui réellement on veut toucher, enfin qui on veut voir à ces événements. L'idée c'est pas de rester non plus dans un espèce d'entre-soi. Enfin, quand je dis entre-soi, c'est plutôt on n'a pas envie de convaincre des gens déjà plus ou moins convaincus. C'est en fait aussi de pouvoir échanger avec des personnes qui, je prends l'exemple, tomberaient un peu sur l'affiche par hasard. Mmh. Et en fait, se demanderait qu'est-ce que déjà veut dire le mot décolonial, attirer des nouvelles personnes à qui ce ne serait pas forcément venu à l'idée.
Oui, qui ne voient pas forcément le problème.
Et qui ne voient pas forcément toujours le problème, ouais.
C'est vrai que décolonial, rien que ce terme-là, il est connoté. c'est comme racisé, on pourrait en parler longtemps, mais ouais. C'est un terme qui, effectivement, dans les milieux militants, dans les milieux politiques, est très présent. Et il parle aussi de comment on veut décoloniser nos esprits, nos esprits fermés par la norme, par notre culture autour de la blanchité. Et là, effectivement, s'ouvrir à d'autres problématiques. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça aussi saison décoloniale.
Oui.
Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus.
D'en reparler plus, tout à fait. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, c'était aussi l'envie d'organiser les futurs événements ailleurs qu'au poulailler. Quand bien même, c'est un lieu qui nous est
facile.
Et encore merci, en tout cas, au poulailler pour ces deux premiers accueils.
Ouais, c'est important.
Mais oui, je crois qu'on a à cœur de vouloir ouvrir autant. L'écho résonne un peu plus largement et puis comme on le répète, hein, l'événement est ouvert à toutes et à tous qui voudraient bien venir ne serait-ce que écouter ou même échanger.
Donc voilà, c'est saison décoloniale autour de la santé mentale et du racisme, c'est le 28 février au poulailler, avant que la prochaine soit peut-être dans une des salles des fêtes du Royan. Ça c'est en cours de construction pour le mois de mai. On vous donne rendez-vous, tout ça est à prix libre. C'est aussi qu'on a envie de rémunérer les personnes qui viennent, notamment Anourada présenter son spectacle et Sophie qui vient intervenir sur le plateau radio. Et puis après voilà, il y a un peu des frais, mais qu'on essaye de faire le plus light possible.
Light possible.
Donc venez tranquillement, venez écouter, venez vous questionner avec nous. On essaye d'être le plus possible dans l'accueil.
Oui, et petit point pratique, pensez à covoiturer si possible. Le parking du poulailler est très petit, mais à, je crois, 5-10 minutes à pied, il y a le grand parking du Colruyt de Saint-Just, de Clay,
ouais.
Qui est grand. En plus, malheureusement pour Colruyt, mais il ferme très bientôt. Donc, le 28, le parking sera libre et vide toute la journée. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à covoiturer parce qu'en fait, le parking est petit. Et puis, pour la planète, c'est ça qu'on dit.
Oui, c'est ça. Voilà, ça, c'est les considérations pratiques. Aussi, on a dit que plutôt pas d'animaux.
Pas d'animaux,
sauf, si possible. Sauf si vous avez vraiment un gros souci de ne pas pouvoir laisser votre chien. N'hésitez pas à nous en parler. Voilà, on va essayer que ce soit un espace qui soit agréable et doux pour tout le monde et qu'on puisse ensemble travailler autour de ces questions. Merci, JJ.
Merci, Céline. Merci, Arlène Royan.
Et puis, rendez-vous le 28 février.
À bientôt.